Bonsoir. Désolée pour le petit souci avec la société de psychanalyse. J'ai oublié de m'excuser pour ce petit problème. Mais enfin, je suis contente que vous soyez tous là. Au nom de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, je vous souhaite la bienvenue à la Grande Bibliothèque. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Frédéric Dubois. Je suis chargée de projet à la direction de la programmation culturelle. Nous sommes heureux d'accueillir ce soir Madame Véronique Bourbouin pour une conférence intitulée « Regards sur la mode dans la peinture et la photographie québécoise au 19e siècle ». Cette conférence constitue un complément à l'exposition de la Belle Époque au prêt-à-porter, en cours présentement à la Grande Bibliothèque au premier étage, art et littérature. Véronique Bourbouin est professeure titulaire au département de scénographie à l'École supérieure de théâtre de l'UQAM et est l'une des plus importantes spécialistes du costume au Québec, à la fois comme chercheuse et comme conceptrice. Diplômée en histoire de l'art de l'Université de Montréal, elle complète un doctorat en études et pratiques des arts à l'UQAM sur le vêtement dans la photographie de 1850 à 1914. Madame Bourbouin est également commissaire de l'exposition « Mode et apparence dans l'art québécois 1880-1945 » présentée au Musée national des beaux-arts du Québec. Avant de lui céder la parole, je vous rappelle qu'il est interdit de prendre des photos ou d'enregistrer la présentation. Merci d'éteindre vos téléphones cellulaires. Et je vais rajouter un petit quelque chose d'autre aussi. Tout au long de la rencontre, vous pouvez poser des questions. La conférencière est très intéressée, mais de plus, il y a une séance de questions à la fin de la conférence. Donc, voilà. J'espère que vous allez passer une bonne soirée.
Alors, bonsoir. Bonsoir, je suis ravie d'être avec vous ce soir. Alors, la conférence de ce soir accompagne une exposition dont on vient de parler au Musée national des beaux-arts du Québec, dont j'ai été la co-commissaire avec Esther Trépanier. Et comme cette exposition dure jusqu'au 6 mai, vous aurez toujours l'occasion de voir les fameux 131 tableaux quand même québécois qui sont exposés à Québec. Alors évidemment, ce soir, nous tenterons de lever le voile sur quelques tableaux seulement, en les abordant sous l'angle de l'évolution de la mode et de l'apparence. Je vous ai préparé un parcours qui mêle la peinture, le dessin, les images de mode et les portraits photographiques, ce qui n'est pas fait, évidemment, dans l'exposition à Québec. Alors, ça tombe bien parce que la photographie est une invention relativement récente en 1880. Oublions pas, la photographie est inventée à peu près en 1839. Elle arrive ici dans les années 40 et disons qu'elle se popularise, c'est-à-dire qu'elle devient démocratique et accessible dans les années 1850. Donc, c'est relativement récent. Tout est relatif, évidemment. Alors, toutes les œuvres que nous verrons ce soir dans le PowerPoint se retrouvent soit dans l'exposition, soit dans le catalogue qui accompagne l'exposition. Et toutes les photographies que vous allez voir proviennent de ma propre collection. Donc, elles sont inédites, d'où l'intérêt. Vous ne les retrouverez nulle part ailleurs. Alors, tout de suite dans le vif du sujet, vous savez, dès le milieu du 19e siècle, l'industrialisation est arrivée au Québec, comme partout d'ailleurs en Occident. Et ça permet l'avènement d'une société qu'on dit bourgeoise. La bourgeoisie impose évidemment son mode de vie et ses valeurs, qui sont l'ordre, le travail et la famille, dans cet ordre-là, évidemment. Et l'Église s'assure que tout fonctionne comme elle l'entend. C'est ça l'idée. La richesse provient de l'argent du travail et non plus comme auparavant de la noblesse, des privilèges, comme au siècle précédent, comme au XVIIIe siècle. Donc ça, c'est quand même un gros changement et ça se traduit dans le vêtement parce que ce sont les hommes qui possèdent le pouvoir du travail. Ils vont donc simplifier leur garde-robe pour la première fois au point de ressembler tous à des corbeaux ou à des insectes noirs. Hein, souvenez-vous, les hommes du 18e qui parlaient chiffon comme les femmes et qui portaient de la couleur sans problème. Eh ben non, le 19e, tous les hommes sont en noir. Et c'est intéressant, Gérard de Nerval parlait avec un certain humour qu'il s'agissait d'un siècle, le 19e siècle, en habit noir, comme si ce siècle portait le deuil de ceux qui l'avaient précédé. Donc, tous les gars sont en deuil. Mais, ces hommes en noir qui travaillent vont demander à leurs femmes de porter leur compte en banque, en fait, de rendre visible leur compte en banque. Donc, tout se repose à ce moment-là sur les épaules des femmes. Et d'où l'importance de suivre non seulement la mode qui s'accélère à ce moment-là, avec la révolution industrielle, mais aussi les codes et toutes les convenances qui vont avec. Et nous parlons d'une époque où les codes, les convenances et le conformisme sont très, très importants. Et ça oblige aussi chaque couche de la société, avec ses propres moyens, à suivre ce courant et à rester à sa place. On ne cherchait pas à paraître plus riche qu'on ne l'était, mais il était vraiment important d'être à sa place. Évidemment, c'est l'apparence qui garantit cet ordre. Pour ce qui était de la réalité, ça c'est autre chose. Donc nous commencerons tout de suite par le très compliqué costume porté par la femme au début des années 1880. Vous avez ici Madame Hamel, donc la femme du peintre. La première chose qu'on remarque, vous avez peut-être vu, c'est la pose. Vous êtes d'accord que se faire faire un portrait, avoir un torticolis de cette façon-là et avoir l'air d'une poule, ce serait pas notre esthétique. Mais justement, c'est ça l'idée, parce que toutes les gravures de mode, les femmes posent de cette façon. Parce que l'idéal de beauté et la mode qui va avec de cette époque-là, des années 80 en tout cas, c'est comme le disaient les Anglais, to have it both ways. Ça veut dire l'avoir des deux bords. Vous avez compris, c'est visible. Et à l'époque où nous, on voudrait ressembler à des planches à repasser, surtout le moins de fesses possible, eh bien à l'époque on voulait en rajouter. Et n'oubliez pas, les années 80 suivent les années 1860, vous vous souvenez, les grandes crinolines, mais elles étaient devenues tellement larges qu'on ne pouvait plus passer les portes, donc il fallait bien qu'on fasse quelque chose. On a éliminé la crinoline, on a ajouté une espèce de patente en métal qu'on appelle la tournure, pour avoir le terme technique, et qui se mettait carrément posée là derrière sur les hanches. Et par-dessus, le surplus de tissu qui restait des anciennes crinolines, eh ben on l'a drapé par-dessus, et c'est ce qu'on appelle un pouf. Voilà le pouf. Alors, c'est ça. Donc, on avait un gros cul, et le terme cul n'était pas mal poli, comme à notre époque, c'était le terme convenu. Alors, j'imagine qu'elle avait le cul bien placé. Et la deuxième chose qu'on remarque, c'est le côté extrêmement moulant et engoncé même. On a l'impression qu'elle a avalé un parapluie, mais c'est normal. Elle porte tout simplement le corset de cette époque-là, qui est extrêmement long, vous le voyez, hein, si vous regardez son corsage, le corset descend au moins jusqu'ici. Sa vraie taille, elle est là. Je parle de la vraie taille, pas de la taille de nos ados. Okay? La vraie taille est là. Ça, c'est la taille de nos ados. Ça, c'était leur taille à eux. Bon. Alors, oui, il faut des fois mettre les choses à leur place. Et la forme de la poitrine, ça se voulait melon-like, ça veut dire forme de melon. Hein? Et c'est même souvent très monobosom. C'est bizarre. Hein? Mais tout ça, c'est pas la forme féminine. C'est une excroissance et une façon totalement artificielle de remodeler le corps féminin. Donc, sur son corset, donc, qui est très serré, très engonçant, elle porte donc un corsage qu'on voit par-dessus, assorti à la jupe, qui est magnifique, d'un très beau satin foncé, probablement gris, très très foncé, et complètement boutonné devant, pour s'assurer que tout est ajusté. On voit très bien les fines coutures ici qui font que la forme est bien suivie. Autre détail qui nous étonne un peu, on dirait que le corsage a rétréci dans la laveuse, parce que les manches apparaissent trop courtes, mais c'est la mode, puisque on n'avait pas grand-chose à montrer dans ce genre de vêtements, donc la beauté se situait aussi dans les mains et dans les poignets. D'où l'idée d'avoir des manches qui nous semblent un peu trop courtes, et ce qui nous permet de dater effectivement 1882-83 Madame Hamel. Ici, elle a un très beau chapeau avec une grande passe arrondie, mais dont on ne voit pas le dessus parce qu'il est complètement couvert par une plume d'autruche magnifique, blanche, très très jolie. Alors, je vais vous montrer un détail, une photo que j'ai prise au musée, comme ça on voit très bien les coutures Et même le plissement qui se fait automatiquement, parce que sa peau est ajustée, c'est quand même, il l'ajustait directement sur la bête, hein, les couturières travaillaient sur la bête elle-même, et c'était pas évident. Et on voit très bien la manche beaucoup plus courte et les plis de la jupe de dessous qui est drapée. Alors, j'avance pour vous montrer une photo avec un détail de la photo d'une femme. Ce qui est intéressant, je l'ai choisie parce qu'elle prend exactement la même pose, donc la pose dans les tableaux, la pose qu'on voit dans les peintures, c'est-à-dire la pose de la poule, avec les mains posées d'une façon totalement artificielle sur cette espèce de chauffe, je ne sais pas quoi, de photographe. Ça n'a pas d'allure, mais toujours aussi le même satin. L'élégance aussi de son corsage et le très beau drapé qui montre la tournure et le pouf, le fameux cul. Pour l'homme, tout ce qu'on en dira, c'est qu'il a l'air aussi coincé qu'elle. C'est normal, nous sommes dans les années 80 et les hommes sont engoncés. On aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, mais il a son habit boutonné très très haut. Donc lui aussi, on a l'impression qu'il ne peut pas avaler non plus. C'est très typique. On a l'impression aussi que ça doit être difficile de s'asseoir tellement ses pantalons sont serrés. J'avance pour vous montrer, ce ne sont pas des jumelles, ce sont des sœurs. C'est la coutume d'habiller de la même façon les sœurs jusqu'à un âge assez avancé. Et même mariées, les sœurs vont souvent s'habiller de la même façon. Et on se dit, tiens, des jumelles, mais quand on en voit 3, 4, 5, 6, non, non, c'est juste qu'elles ont la même batch de tissu et ils se coupent. Il y a quelque chose comme ça, mais c'était aussi devenu une sorte de mode. Alors ça, c'est la même version qu'on a vue tout à l'heure, mais vue de face. Donc finalement, ce sont d'assez jeunes filles, donc on ne leur voit pas le faux cul, mais on voit très bien le corsage bien ajusté avec le boutonnage devant, la jupe de dessus qui forme une sorte de tablier pâle et la jupe de dessous en velours. Elle est plus courte parce que ce sont des jeunes filles et ça leur permet de marcher. Ce qui était intéressant dans ce ferrotype, donc c'est des petites plaques de métal vraiment minuscules, c'est qu'on voit aussi le support. En dessous, si vous regardez bien, en dessous des jambes, voilà, juste là. Alors, il y a un support que le photographe utilisait pour les maintenir droites. Et en plus, elles sont appuyées sur une drôle de bébelle que vous retrouverez dans aucun salon. Et en plus, sur les ombrelles de chaque côté. Donc, avec comme ça, on était bon pour tenir quand même quelques minutes devant le photographe. Alors, j'avance. Alors, un autre ferrotype. Oui, je suis d'accord, le monsieur, il a l'air d'un clown assis au centre. Et en plus, le pauvre, il ferme les yeux au moment. Mais les femmes sont magnifiques, très bien habillées. C'est bien parce qu'on a une version pâle, une version claire. Mais c'est dans les années 80, on avance, nous sommes rendus en 85. On aime bien mélanger le foncé et le clair d'une façon qui nous semble pas tout à fait élégante ou peut-être légèrement vulgaire, mais c'est la mode. On revoit la même chose, sauf que les corsages maintenant sont ouverts devant, légèrement ouverts, avec des faux plastrons. Donc, on fait semblant qu'il y a quelque chose en dessous ici, mais non, tout ça, c'est bien cousu ensemble. La différence avec ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que les chapeaux ont fini d'être arrondis, ils montent, un peu comme des pots de fleurs renversés. Et la silhouette veut aller vers l'allongement, tout allonge. Le V devant, très mince, les chapeaux, tout ça s'allonge. Et comme quand on trouve que ce n'est pas assez haut, on rajoute des fleurs, des pompons, des plumes. Ah ouais, on y va. Alors voici une version qui est plus 88, je me suis trompée dans la date, mais je trouvais ça intéressant, la version 3/4 de cette femme, qui ressemble d'ailleurs au portrait de Madame Hamel, avec la soie, une très belle utilisation de la soie, perlée avec du jais, et on voit très très bien le côté melon de la poitrine. Et à la fin des années 80, la silhouette est moins souvent drapée, mais on continue à avoir l'idée du profil, donc on continue à avoir une petite cage tournure derrière, donc c'est pour ça qu'elle continue à se mettre de profil. Donc la très jolie jeune femme qui met son bras sur l'homme et qui semble lui dire que j'ai épousé ce mec. C'est, vous êtes d'accord. Mais je veux quand même parler du mec en particulier, qui a l'air moins à l'aise que sa femme. et qui continue à porter les habits étriqués que les hommes portaient dans les années 80. Mais ce qu'il porte, on le voit très très bien ici, c'est ce qu'on appelle une jaquette. Donc la jaquette ressemble à une veste, mais c'est un peu plus long. Et à partir de l'estomac, ça s'écarte vers l'arrière. Donc on n'est pas encore rendu au queue de pie, mais donc c'est un vêtement du matin qu'on porte avec un pantalon qui n'est jamais assorti. Ici, on trouve que ça va pas ensemble, c'est une espèce de tweed assez grossier. Mais pour l'époque, il est très bien habillé, remarquez la chaîne de montre aussi. Alors, nous descendons un petit peu dans la classe sociale, mais c'est quand même intéressant de voir ces jeunes filles qui viennent de l'album de la famille Poulain de Québec, mais la photo a été prise aux États-Unis. Vous savez qu'il y a millions de Québécois qui sont allés, Canadiens français, il faut dire, qui sont allés travailler aux États-Unis dans les usines, que beaucoup de jeunes filles québécoises sont allées là-bas, et une partie sont restées et d'autres sont revenues au Québec une fois qu'elles avaient amassé un peu d'argent pour leur dot. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est la multiplicité des détails au niveau soit des corsages, soit des coiffures. Et pourtant, elles sont toutes à peu près cette date-là. Là, je dirais que la mode la plus ancienne est peut-être 87 et la mode la plus récente se rapproche de 1890. Donc, on est pas mal dans cette date-là. Et je trouve assez rigolo, j'ai oublié de vous dire qu'on voit les filles de devant qui tiennent des navettes, je sais pas si vous avez vu dans leurs mains, qui nous indiquent qu'elles travaillaient dans des usines de filature. Donc, en plus, on connaît leur métier, ce qui est assez extraordinaire. Et on voit qu'il y a énormément de variantes dans le port du corsage en particulier, tout simplement parce que c'est les corps des femmes qui sont différents en dessous, et que ma foi, quand on n'a pas beaucoup en dessous, on a beau mettre un corset, à moins de rajouter des Kleenex, il n'y a pas de miracle. Et en même temps, quand on en a un petit peu trop, ici, et qu'on n'a peut-être pas non plus tout à fait le corset qui devrait écraser un peu tout ce qu'il faut, on fait avec. Et puis, voilà, c'est ce que je trouvais intéressant. Tout n'est pas parfait. Et en même temps, elles sont à la mode à un an près, toutes. Et c'est vraiment intéressant pour nous. Donc, voilà pour nos petites fileuses. Oui. Oui, je vous en prie.
88.
Oui. C'est très précis, je suis d'accord. Mais j'aurais pu écrire entre 87 et 89. Parce qu'on n'a aucun signe de 90, mais on a déjà toutes les jupes sont vraiment assez droites, c'est-à-dire sans draper, toujours avec les plis, etc., qui fait qu'on est vraiment pas mal 88, et peut-être un ou deux corsages pourraient te faire plus 87. Je pourrais vous faire quelques petits dessins, mais comme on en a beaucoup, c'est plus facile à dater. Avec une, on pourrait avoir des doutes. Et celle-là, je l'ai datée 90, évidemment, quand je mets circa, je veux dire aux alentours de, hein, on s'entend, cinq femmes, de la famille Lacasse de Québec, avec, on imagine, un frère. Elles portent toutes des robes différentes, mais ce qui permet de déjà dire que nous touchons probablement aux années 90, c'est les toutes petites épaulettes qu'on commence à voir sur une partie des robes, et aussi les corsages à plastrons vraiment bien ouverts, avec les plastrons bouffants, qui sont vraiment très très typiques de cette époque-là. Et aussi, là où tout se ressemble, c'est les coiffures. Si vous regardez bien, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'à la fin des années 80, la coiffure veut monter. Et ben là, non seulement les chapeaux, mais la coiffure monte avec des boucles un peu mousseuses qui donnent l'impression que la tête a la forme d'un œuf. Alors, que dès qu'on voit une tête d'œuf, on peut se dire « on est en 90 ». À peu près, 89-90. Alors ça, ce serait une bonne façon de dater. Mais évidemment, il y a aussi plusieurs détails. Mais ce qui est intéressant dans cette photo, c'est quand même le côté bien habillé, bien coupé, les variantes au niveau des tissus. Ces femmes sont vraiment très, 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 très belles. Alors, cette image de Québec, vous voyez, il y a toujours le nom du photographe, j'essaie de vous le montrer, qui date de 90-91, là, on peut pas savoir exactement, qui peut être datée, encore une fois, par les manches de la femme, très très précise, parce qu'il y a vraiment un petit surplus, Mais c'est pas un bouffon, ça remonte un peu comme si elle avait les bras pour une poupée, là. On a l'impression des petits soldats, là, et qu'il y a des pivots, voilà, que ses bras sont montés sur des pivots. C'est très, très typique de cette époque-là. Mais ce qui m'intéresse, on a déjà vu son costume, ce qui m'intéresse, c'est le vêtement porté par l'homme qui porte une redingote. Alors, la redingote, c'est l'uniforme de cette époque-là, c'est l'uniforme de tout le 19e siècle, et la sienne est croisée, c'est-à-dire à boutonnage double, et on a l'impression qu'il est vraiment très aussi assez coincé, mais on continue avec cette forme engoncé, typique, il est quand même extrêmement élégant, et ce genre de redingote, ça pourrait être le style Prince Albert. Alors lui, il se prend pour le Prince Albert, et il pose en Prince Albert, puisqu'il porte une redingote Prince Albert. C'est ça l'idée. Mais l'idée, encore une fois, c'est encore l'allongement, et on appelle même cette ligne-là la ligne haricot vert. Donc oui, vous voyez, il est bien, bien engoncé. Alors ça, c'est très différent. Et pourtant, nous sommes à peu près dans les mêmes dates. C'est un ferrotype, donc encore une plaque de fer. Mais nous avons deux hommes en tenue négligée. Pourtant, nous, on trouve qu'ils sont pas mal habillés, là. Mais ils sont en complet veston. Donc, dans notre esprit moderne, on se dit, oui, mais complet veston, comment ça se fait que c'est négligé? Et en fait, à l'époque, le complet veston est assez récent. Il date des années 1860. Ça fait pas longtemps qu'on le porte. Il n'est porté qu'à la campagne ou l'été. À la campagne, certainement pas en ville, et donc à la chasse, pour le sport. Et l'important, c'est que ça, le complet soit complet, avec le même tissu, en général, pour le veston, le pantalon. Ici, on le voit pas très très bien, mais il y en a un qui est finement ligné, l'autre qui est finement à carreaux. Donc c'est vraiment des complets vestons du matin. Et il porte le chapeau qui va avec, c'est-à-dire le melon. Et vous avez remarqué que le melon nous semble assez assez haut, et ça nous indique aussi la date, parce que les melons, plus tard, vont se rétrécir un petit peu. Alors, il nous semble comique, parce qu'on a l'impression que les chapeaux sont à peine déposés sur le haut de la tête. C'est tout simplement comme ça que les chapeaux étaient portés à l'époque. Donc, eux, ils se considèrent très élégants et très sérieux. Vous voyez, encore une fois, tout est très ajusté. Alors, nous revenons un tout petit peu en arrière pour parler d'un portrait d'homme de Plamondon, un très beau portrait, qui nous montre la tenue du soir. Même si on n'a que le haut, on peut quand même l'imaginer. Donc, cet homme porte le frac. Alors ça, c'est l'autre pièce de vêtement qu'on porte le soir. Je peux juste vous le décrire. On le voit ici très échancré, très ouvert devant, toujours noir, ouvert sur un gilet blanc. Je ne sais pas si vous le voyez, on le devine ici, le gilet blanc, qui lui-même est ouvert, échancré et ouvert sur une chemise à mi-donnée avec un plastron, avec une petite épingle en bijoutée pour tenir le plastron. Mais la suite, je suis obligée de vous le décrire, le frac est coupé devant et il se termine par une queue. Alors il y a différents noms, queue de pie, queue de morue, mais on imagine un peu vaguement l'habit de nos chefs d'orchestre. Le fameux côte à queue en bon québécois, mais on appelle ça un frac. Et un petit détail intéressant à cause de la date, 78, ce bel homme porte un nœud qui ne s'appelle pas encore nœud papillon et qu'il a noué lui-même, puisque c'est le comble du chic de nouer son nœud soi-même. L'autre chic, c'est la couleur, le vert. Ça va pas durer. Les hommes vont finir complètement au noir et on n'aura plus le choix. Le soir, on sera même obligé de porter le nœud papillon blanc et on n'aura plus cette fantaisie incroyable que de porter un nœud vert. Pourquoi le nœud noué à la main? Et il le montre, c'est pour ça qu'il est asymétrique, c'est parce que seuls les gens ordinaires achetaient leurs nœuds tout faits dans les magasins, parce que ça coûtait moins cher. Tandis qu'il fallait évidemment soit un domestique, soit beaucoup de temps, beaucoup de talent pour nouer son nœud de cette façon-là. Je crois que j'avais un détail, oui. Voilà, je voulais juste montrer le nœud qui est vraiment asymétrique. Il porte évidemment avec un col à l'écart, donc avec les coins séparé et légèrement cassé, un col qu'on va revoir encore. Les enfants, toujours dans les années 80. C'est un grand tableau, un magnifique tableau de Robert Harris, Les enfants Burnside, et ça nous donne une bonne idée des différents âges. Vous avez la jeune fille au centre qui porte une version écourtée, parce qu'elle n'a pas encore atteint l'âge de 12 ans, de sa mère. Donc, elle aussi, si elle se levait, on verrait qu'elle a une espèce de petit pouf à l'arrière. Ici, on lui devine un peu la ceinture qui est basse. Mais son corsage est cousu à la jupe, c'est beaucoup plus pratique pour les jeunes filles. Ce qui nous intéresse ici, c'est les garçons. Alors, ça c'est une petite fille. En principe, mais ça pourrait être un garçon. Les garçons étaient habillés exactement de la même façon que les bébés-filles. Mais ici, nous avons aussi un garçon qui est en robe. Les petits garçons étaient en robe jusqu'à l'âge de 4, 5 ans, des fois 6 ans. Et ça fait des siècles que la mode des enfants était ainsi. On ne faisait pas de différence entre garçons et filles jusqu'à ce qu'ils aient l'âge soi-disant de raison. Et après, tout d'un coup, on leur mettait des culottes courtes, comme celui-là, qui est très fier de nous montrer qu'il y porte déjà une culotte courte, avec des bas. Et la prochaine étape, évidemment, après sa communion, ce sera peut-être le pantalon. Et après, il pourra devenir un grand. Mais ce qui nous intéresse aussi, c'est le côté quand même un peu masculin de la robe du petit garçon, ici. Mais toujours avec, il devait souffrir ses cols en dentelle, que les petits garçons ont souffert pendant plus d'un siècle et que les mamans arrangeaient amoureusement avec d'anciennes dentelles du XVIIIe siècle retrouvées dans le coffre familial. Je crois que j'ai un détail, oui, où on voit bien ce fameux col en dentelle qui est féminin, total féminin. Les femmes, c'est ce qu'elles portent dans les années 80. Alors, j'ai trouvé deux photos qui illustrent assez bien. C'est un peu plus tardif. Deux enfants de la famille Fortin de Québec. La petite fille à droite s'appelle Marie-Louise. Le petit garçon, on peut l'appeler Daniel si vous voulez. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de voir exactement le même vêtement que nous avons vu dans le tableau. Donc, le petit garçon qui porte une petite veste courte, qu'on dit veste Norfolk, veste de chasse d'Angleterre, avec la culotte courte. On le voit très bien ici, la culotte courte, les bas tricotés. Et tandis que la jeune fille, elle porte une version aussi courte. On sent qu'elle a déjà son petit corset en dessous. Il y avait des corsets pour les enfants. Les bas noirs aussi. Et la fameuse collerette de dentelle. Je ne trouve plus, voilà. La collerette de dentelle qui les engonce énormément et qui fait que ça devait être difficile de jouer. Autant pour la fille et que pour le petit garçon. Donc, très proche du tableau. Les bébés. On en a parlé, donc un tableau de l'exposition, bébé sur une chaise. Évidemment, il y a aussi beaucoup de photos qui étaient faites à cette époque-là. Même si ici, il s'agit d'une petite fille, les garçons étaient habillés exactement de la même façon. Donc, en robe, robe blanche pour cet âge-là, très très jolie, avec des petites chaussures qui ne sont pas du tout destinées à la marche, mais pour faire décoratif. Donc il y a des tableaux, mais il y a aussi des photos pour montrer l'utilisation des robes blanches chez les petits garçons. J'ai trouvé une photo du petit Henri Lacasse, qui est dans une belle poussette en métal, et qui est évidemment tout en dentelle blanche. Et heureusement, j'avais le nom, donc je pouvais savoir qu'il s'agit d'un petit garçon. Et il y avait même son âge, il a un an. Et il porte une espèce de petite casquette. Donc souvent, pour différencier les garçons des filles qui sont en robe, il suffit de regarder un accessoire, soit un jouet, soit un petit chapeau qui peut nous aider à différencier tout ça. Voilà encore sur le sujet des enfants. À gauche, vous avez encore un petit garçon, mais qui nous parle d'une mode très importante, la mode des costumes marins, qui existe encore d'ailleurs. Mes propres enfants ont subi un costume marin quand ils étaient petits. Alors, c'est toujours là, je l'avais reçu en cadeau. Le petit garçon qui est juché sur une chaise, évidemment, parce qu'il faut pas qu'il bouge pour le photographe, et qui semble porter une espèce de crinoline en dessous, donc la robe est très très ample avec des jupons, Et il porte même le costume, il est identifié comme un costume de quartier maître. Donc il y avait toutes sortes de subtilités dans les costumes, des fois avec ou sans béret, mais les petits garçons en marin, c'est très important. C'est une mode qui vient de l'Angleterre. Beaucoup de modes enfantines à cette époque viennent de l'Angleterre. Vous savez que l'Angleterre est une île et que la marine anglaise a fait la fortune de l'Angleterre, d'où cette influence si, si importante. Dans le petit garçon que nous voyons de l'autre côté, Fernand Bolduc, il porte une petite blouse à la russe. Alors, en dehors du costume marin, on aimait déguiser les enfants avec toutes sortes de costumes exotiques. Mais les plus courants, c'était les petits costumes espagnols avec boléro et les costumes à la russe et les kilts aussi. Donc, toujours l'influence de l'Angleterre. Alors, pour lui, en dehors de sa blouse à la russe, il a par contre un magnifique nœud, un nœud de ruban écossais qui, lui, nous rappelle le côté anglais. Et j'ai vérifié, j'ai trouvé dans le catalogue Eaton, il vendait des blouses à la russe brodées à cette époque-là, je crois au début 1900. Donc nous sommes à la fois à Montréal et à Québec dans ces deux photos. Ça, c'est un très grand tableau d'Edmond Dionnet, 1894, pardon, La cigarette, qui nous montre, vous voyez l'homme sur l'escalier qui est en train d'engueuler les jeunes, qui porte une jaquette, et c'est fait exprès que la jaquette s'ouvre sur le gilet en dessous. Et vous voyez que quand on n'est pas à la campagne, on porte un chapeau haut de forme, j'ai oublié de le rappeler. Et ici, ce qui est merveilleux, c'est tous ces jeunes, on dirait des ados, mais à l'époque, le terme n'était pas employé. Évidemment, mais comme tous les ados qui font des choses interdites et qui s'allument des cigarettes. Et lui, il s'apprête à leur taper dessus avec sa canne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien comment les jeunes s'habillent. Certains sont déjà en pantalon, d'autres sont encore en culotte courte, comme ici culotte à l'anglaise ou culotte golf. Donc il y a des variantes dans les culottes courtes, dans les chapeaux aussi, plutôt melon, plutôt feutre, plutôt casquette. Et ce qui est intéressant, c'est les couleurs aussi, que nous n'avons pas dans la photographie. Donc, des couleurs très, très intéressantes, des bleus, des bruns, des verdâtres, des verts de gris, etc. Je crois, voilà. J'ai trouvé une photo quand même assez rare d'extérieur de quatre garçons qui sont habillés exactement comme on a vu dans le tableau tout à l'heure, sans les couleurs. Et on voit bien ces vestes un peu courtes ou écourtées avec des chapeaux, parce qu'on portait le chapeau tout le temps à l'époque. Ici, donc, ces quatre garçons avec à la campagne, dans un attelage de chiens. Je vous signale qu'à cette époque, des photos prises en extérieur étaient quand même très, très rares, parce que les fameux Kodak existent, mais sont difficiles, sont très chers, difficiles à manipuler. Donc, c'est une photo plutôt rare, elle vient de Québec. Très beau tableau de Franchère, un autoportrait. Alors, ce qui est intéressant, c'est la date, mais c'est aussi ce peintre. On a de la difficulté à l'imaginer. On comprend bien qu'il porte une chienne de peintre, mais en dessous, il est quand même cravaté, avec son col, avec son gilet en dessous, magnifique, sa pipe en plus, imaginez comme c'est pratique. Mais nous avons de nombreuses photos qui nous montrent des peintres connus de l'époque qui posent dans leur atelier habillés, vraiment en complet, très très bien habillés. Donc c'est assez intéressant ce genre d'autoportrait. Il porte une régate, c'est le nom qu'on donne à l'ancêtre de notre cravate, une très belle régate en soie rouge, rayée rouge, et le fameux col à coin cassé, tout à fait typique. Alors, juste pour nous montrer l'équivalent en photo, j'ai trouvé une photo du photographe Livernois qui nous montre un monsieur P.H. Bridard, je ne connais rien d'autre de lui, mais qui a le même genre de cravate, avec sûrement une jaquette, on ne voit pas le bas, mais on devine que c'est une jaquette très élégante. Très belle. Regardez aussi la moustache. Alors, un couple de Valleyfield est à la mode en ce moment. Voilà, je l'ai mis sur mon Facebook en disant qu'à Valleyfield, il y a des gens qui se tiennent debout. Alors, désolée. Alors, ici, mais ça reste un beau... excusez-moi. Ça reste un très beau couple et on voit très bien l'élégance de la redingote portée par l'homme. Vous avez vu avec les très beaux revers, avec la soie, avec la redingote parfaitement gancée. La femme qui ne porte plus dans les années 90, 92, 13, on ne porte plus maintenant l'espèce de tournure, l'excroissance, mais on porte quand même plus de volume vers l'arrière. Donc pour qu'on soit sûr qu'on ait compris qu'elle est à la dernière mode, elle a pris, vous avez remarqué avec sa main, elle a pris l'arrière pour montrer « je l'ai mon volume, ok ? Je viens de Valleyfield, mais j'ai la robe. » Et ce que vous remarquerez aussi, évidemment, ce sont les manches. Alors tout d'un coup, les manches commencent à devenir bouffantes. On avait vu la petite surélévation. Tout d'un coup, les manches se mettent à bouffer. Alors on a arrêté d'en mettre là, on commence à en mettre là. Évidemment, ça varie, c'est cyclique ces trucs-là. Et ça va jusque-là. Et il y a pire encore. Mais ce que j'aime beaucoup dans cette photo de mariage, en plus on connaît le nom, Ezilda, c'est-tu assez beau, Ezilda Bernier qui épouse Léon Houle. Je ne connais rien d'autre sur ce petit couple, mais sauf qu'ils viennent de Saint-Hyacinthe. Et ils sont extrêmement élégants. Je signale qu'une robe de mariée blanc, une robe de mariée qui était blanche à l'époque, c'est quand même extrêmement rare. Parce que le blanc, la plupart des gens se mariaient en noir, jusque dans les années 1910 au moins. Et le blanc était vraiment réservé à une élite. Et date à peine des années 1830. Donc il s'agit quand même de la haute société de Saint-Hyacinthe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que même s'il n'y a plus de tournure derrière, la robe s'évase. On voit bien la robe s'évase et au cas où on ne l'aurait pas compris, elle aussi la tient d'un côté avec sa petite main. Et les manches deviennent énormes. Ce sont des manches qu'on appelle gigots. Et on pourrait les appeler ballons aussi, ça dépend. Et le corset devient de plus en plus serré. D'ailleurs, elle a vraiment l'air d'avoir mal à son corset. On commence aussi à mettre beaucoup de sparage sur les épaules, des petits rubans, etc. Et c'est intéressant de voir la différence de pose entre les deux. Vous voyez, les hommes, toujours l'insecte noir, très à l'aise avec sa main dans sa poche, mais le côté mettre la main dans sa poche n'était pas du tout vulgaire à l'époque. C'était au contraire considéré comme chic. C'est que beaucoup plus tard que ça va devenir un petit peu laisser aller. Donc lui, il est sûr de lui, hein, d'accord. Mais sauf que on peut très bien imaginer que lui, il sait ce qu'il attend le soir. Mais elle a aucune idée. Ok. Sa mère lui a juste dit "Tu fais ce qu'il te dit." Et d'où le côté un peu content, mais inquiet. Et en plus, c'est certain, elle a des chaussures blanches, qui est très rare, elle ne les utilise que pour son mariage. Ses chaussures sont neuves, son corset est extrêmement serré et neuf. Et on a l'impression qu'elle dit au photographe, dépêchez-vous, parce que j'en peux plus. C'est vraiment ce que cette image nous dit. Je l'aime beaucoup, vous avez compris. Et j'avance. Je vous ai dit qu'il y avait pire. Alors les manches vont continuer dans les années 90 à gonfler. Elles s'écrasent un petit peu, mais elles continuent à gonfler. Et maintenant, les chapeaux vont vouloir monter. Alors les chapeaux sont posés complètement à plat, comme une galette ondulée. On voit très bien le côté galette ondulée. Et ici, la galette empire. Et les plumes se dressent. Donc les plumes sont totalement dressées, parfois même complètement droites, comme ici. Très, très, très beau chapeau. Très souvent, à l'arrière, le col, on le voit, il avait commencé à monter, il commence à être de plus en plus montant, et on aperçoit un ruban à l'arrière qui nous permet souvent de dater pour le 97 avec la largeur des manches et le ruban derrière. Donc, une très, très belle robe pour cette jeune femme. Vous remarquerez, les cheveux n'ont pas encore pris le volume qu'il prendra dans les années 1900. Alors ça, c'est un très intéressant tableau de Franchère qui nous montre la place Jacques Cartier, évidemment, ici à Montréal. Donc des femmes en train de faire leur marché et une qui, visiblement, ça nous regarde. Et c'est celle-là que le peintre veut qu'on regarde. Et c'est juste pour montrer qu'on a beau faire son marché, on reste à la dernière mode et bien habillé. Mais on a le choix de porter des jupes avec des chemisiers. C'est une mode qui date d'il y a quelques années déjà, mais qui va devenir de plus en plus importante et très pratique. Alors, le beau chemisier avec les manches qui ont commencé à tomber un petit peu, mais quand même encore bouffante, et une jupe qui raccourcit un petit peu, qu'on appelle une jupe trotteur, qui permet de trottiner pendant qu'on fait son marché. Vous avez remarqué le chapeau de la femme, qui est un canotier, un chapeau qui était au départ pour les canoteurs, donc les gens, les sportifs, et qui va devenir à la mode pendant toute la fin du 19e siècle et une partie du début du 20e siècle. Et les femmes vont l'adopter parce qu'il est léger, parce qu'il est pratique. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'elle porte une ombrelle en même temps. On se demande bien à quoi ça sert l'ombrelle si on a un chapeau. Mais c'est que l'ombrelle, elle est obligatoire. Et j'ai retrouvé une phrase dans le catalogue Eaton, qu'une dame préférera négliger sa tenue avant de se promener dans les rues un jour d'été sans ombrelle. Tenez-le vous pour dit, c'est Eaton qui l'a dit. J'avance. Alors, un très beau tableau à gauche d'Ozias le Duc, hein, quasiment inconnu, mais qu'on peut voir au Musée des Beaux-Arts ici à Montréal dans leur nouveau pavillon. Et là, on peut vraiment, il est daté, mais il n'est pas difficile à dater pour nous non plus. On le voit à la coiffure, on voit aux manches bouffantes, mais qui commencent à tomber. Et j'ai mis en regard quatre jeunes femmes qui, on dirait qu'elles sont de la même famille que la femme que Jenny Goulet. C'est tout simplement que les coiffures et les robes sont quasiment identiques. Alors, les manches ont atteint leur pleine largeur et elles commencent à diminuer et on va même les appeler des manches en demi-gigot. Toujours des termes de boucherie. Oui. Elle n'en porte pas. Je pense que porter trop de bijoux, ça aurait été considéré comme vulgaire. Mais il y a des époques où elles en portaient plus. On peut dire dans les années 70, quand elles ont des longs, 1870, quand elles ont des longues boucles d'oreilles et des grosses chaînes, jusqu'en 80, 81. Mais c'était juste l'époque avant. Les bijoux étaient plus visibles et imposants. Mais on va en voir. Alors, je trouve que ce tableau est absolument extraordinaire. C'est une famille dont je ne connais pas le nom, mais qui vient de Montréal, à cause du photographe, qui visiblement fête son 50e anniversaire de mariage, donc les deux vieux au milieu, on imagine. Et c'est une famille idéale, canadienne-française, puisqu'on a à la fois le curé et la bonne sœur, hein, et puis les enfants, etc. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est de voir toutes les variantes au niveau des corsages, parce que vous l'avez remarqué, les jupes se sont simplifiées, mais les corsages, on y va avec énormément de variantes, du plus clair au plus foncé, et aussi on aime travailler sur les contrastes, comme ici, des ornements, des ganses, des galons contrastés. Mais ce qui est assez fou, c'est cette manche ici, qui nous aide à dater de 97-98, parce qu'il y a une épaulette par-dessus l'espèce de petit ballon demi-gigot. Et comme elle est de profil, on voit bien ce que ça donne. Donc, ça donne une impression très épaulée pour les femmes qui sont... elles sont toutes, d'ailleurs, vraiment à la dernière mode. J'essaye de voir s'il y en a une qui déroge pas du tout. Et les petites filles sont en blanc, avec des petits bas noirs. Et nous allons le voir dans le prochain tableau. Dans le Brimner... 1898, le livre d'images, les deux jeunes filles ont les robes à la taille, tout à fait typiques des années 90. Elles sont courtes, c'est normal, elles sont jeunes. Elles ont les cheveux sur les épaules, ce qui est relativement récent à cette époque-là. Il y en a une qui porte une jupe et un chemisier, mais les deux portent les bas noirs avec les chaussures noires. Et ça nous choque toujours de voir des jeunes filles en blanc avec des bas noirs et des bottines noires. Mais c'est vraiment la mode, même au bord de la plage et en plein été. Et j'ai trouvé une petite photo de Montréal avec deux petites filles qui portent quasiment la même mode à la même époque. Et le petit geste très tendre et assez mignon. Alors, un très beau tableau de Harris, le jeune Gordon Reed, manifestement un anglophone, qui porte une très belle jaquette, je dirais style aristocratie anglaise, petite jaquette de chasse, hein, d'où la couleur rouge, avec les bas tricotés par grand-maman, ça va bien. Et il tient une petite canne de golf miniature dans sa main pour bien montrer que lui, il ne vend pas des journaux dans la rue. Alors, j'ai mis en regard, vous avez remarqué aussi sa petite casquette qui est assez jolie. C'est un très, très beau tableau. Les rouges sont absolument fabuleux. Ça ne nous dit pas rien sur la couleur de l'avoir comme ça. Mais j'ai voulu mettre en regard un petit garçon de Québec qui porte aussi une petite jaquette de très bonne qualité. Je parle de l'étoffe, la façon dont les bords sont gancés, probablement pas rouge. Mais donc tout à fait la même façon de fermer le bouton du haut, qui est une façon qu'on appelle à la Richemont ou à l'anglaise. Alors j'avance, 1901, encore un tableau de Harris, portrait de Madame Harris, qui est assise à l'intérieur, mais qui porte un vêtement d'extérieur. On le voit très bien, elle porte son chapeau, qui commence à être large, elle porte ses gants, couleur chamois, avec une robe d'été, en tout cas une robe pâle. Et si elle est vraiment renversée sur sa chaise de cette façon-là, c'est tout simplement qu'on atteint le maximum d'étroitesse au niveau du corset. Les corsets sont extrêmement lacés, donc elle ne peut pratiquement pas se plier à cette époque-là. Et vous voyez que même la tête, le menton, tout va dans la même ligne que le corset. Alors, nous parlions des chapeaux. Dans l'exposition, nous avons plusieurs dessins de notre dessinateur national, Massicotte, absolument fabuleux, des carnets de dessins. Et j'ai choisi celui-là parce qu'il porte un petit canotier. Il se nomme d'ailleurs le canotier, une jeune femme. Et là, ce qu'on voit de différent, c'est les cheveux qui commencent à être plus bouffants et les canotiers posés dessus. Et j'ai mis en regard une photo aussi pas très courante, parce que deux jeunes femmes à l'extérieur, en jupe et chemisier, donc elles peuvent marcher, les jupes sont assez courtes, et la femme à gauche porte un petit canotier avec un ruban large. Tout à fait nouveau, c'est le petit réticule ici, donc le petit sac à main attaché à la taille, c'est le retour du sac à main. Alors, les chapeaux recommencent à grandir et à monter. Nous avons le dessin de Jobson Paradis qui nous montre sa sœur, Gabrielle. C'est quand même pas pour rien qu'il a demandé à sa sœur « Veux-tu bien mettre ton chapeau pour que je fasse le dessin ?» Le chapeau est magnifique, le dessin aussi d'ailleurs. Et on voit les plumes superbes qui montent. Et la tendance du chapeau à partir des années 1904, c'est de vouloir s'agrandir de plus en plus. Les manches sont redevenues droites, et donc il faut bien mettre l'extravagance quelque part. Et je vous ai trouvé une photo d'une femme de Montréal qui montre bien l'élégance de ce genre de chapeau, légèrement incliné ici, mais avec les mêmes plumes d'autruche. Et ça, c'est une autre photo de l'album de la famille Fortin, et qui ne pourrait être que canadienne-française, ne serait-ce qu'avec les manteaux de fourrure. Donc c'est assez rare dans les photos européennes, on ne voit jamais de manteaux de fourrure comme ça, surtout courts. Alors elles sont très belles, ces femmes, et vous avez vu aussi l'élargissement des chapeaux, qui ressemblent très souvent, et c'est écrit dans les catalogues de mode, je n'invente rien, palourde garnie. Oui, chapeau en forme de palourde garnie. En plus de leur manteau de fourrure, elles ont des petits manchons. Hein, donc, elles ont beau être dans un salon de photographe, elles sont habillées comme pour affronter l'hiver, si j'ose dire. Donc, très, très élégantes. Et l'homme aussi, qui est avec son manteau, qui trône comme un roi au milieu de ces deux femmes. Alors, ici, une gravure d'Henri Julien, qui n'est pas seulement le nom d'une rue à Montréal, mais qui est un important graveur de notre époque, dessinateur. Et je l'utilise pour qu'on comprenne très bien la différence entre la redingote, qui va avec le chapeau haute forme, et le monsieur à droite qui soulève son chapeau melon et qui est en jaquette. Donc, il y a vraiment presque une différence sociale, parce qu'à partir du début du siècle 1900, la redingote devient la redingote qui était l'uniforme de tous les hommes devient un peu plus formelle. Alors maintenant, pour tous les jours, on porte plutôt la jaquette et puis on va commencer petit à petit à porter le complet veston. Donc c'est vraiment quand on veut, en une circonstance plus formelle, qu'on se met à porter la redingote, comme on le voit dans cette gravure-là. Ici, nous sommes dans ces dates-là. Maria Rémillard, donc j'imagine que c'est Monsieur Rémillard, probablement une photo avant de partir pour leur voyage de noces, ça se faisait assez souvent. Et l'homme porte un manteau, donc ce n'est pas la redingote, et en dessous, il a un habit, évidemment. La femme est magnifique dans un très très beau manteau. On voit rarement les manteaux longs de femmes dans la photographie. Son chapeau est aussi du style palourde garni, de blanc cette fois-ci, avec une très belle étole de fourrure. Et vous avez remarqué aussi les petites marguerites qui garnissent son manteau avec des petites capes, tout ça. Donc vraiment une très très belle photo ici. Je suis obligée d'avancer. Un beau portrait, autoportrait. Donc voilà un peintre qui se fait un autoportrait en manteau et chapeau melon. Imaginez la difficulté. Nous sommes en 1911, donc nous avançons, et j'ai trouvé une photo qui correspond à peu près. Alors, il porte ce qu'on appelle un manteau Chesterfield. Hein, toute la mode est beaucoup influencée par l'Angleterre pour les hommes. Et ce sont des manteaux de laine de très bonne qualité. Et comme vous voyez, on portait ça avec la moustache, ou moustache et barbichette, très bien habillé. Même la pose se ressemble, et je trouvais que c'était intéressant. Ici, alors, vous connaissez Taschereau, évidemment, un portrait de Hamel en 1911, et rendu à cette date-là, la redingote est extrêmement formelle. Il la porte croisée, le col est très haut, la cravate ressemble à notre cravate moderne, mais vous pouvez être sûr qu'il a mis sa redingote pour le tableau. Il la mettrait aussi pour un mariage, pour une occasion importante, mais disons que dans la rue, il porterait plus volontiers une jaquette. J'ai trouvé un homme élégant, avec le même genre de col rabattu, dans une photo. Celle-là, elle est de Montréal. Et vous voyez que les hommes portent aussi encore toujours la chaîne de montre avec la breloque. Je suis obligée d'avancer. Pour vous parler d'une invention relativement récente, c'est les plis dans le pantalon. Alors, vous voyez, on le voit très bien dans ce tableau, le portrait de Trèfle et Bertiome par Saint-Charles. Là, on voit bien le pli. Et le côté main dans la poche, comme je vous l'avais dit, ça, c'était considéré comme élégant. Les plus élégants se prenaient. Mais ce qui est intéressant dans le tableau par rapport à la photographie, c'est qu'évidemment, on a la couleur. On voit, tiens, il y a quand même possibilité de faire quelques variations de couleur pour un gilet, par exemple. Ici, le gilet crème ou beurre frais, comme vous voulez, ça reste quand même un gilet très élégant qui se veut, et les gants pourraient être assortis. La cravate aussi était la seule fantaisie qu'on peut encore se permettre, et encore de jour, pas le soir. Alors j'ai trouvé une photo avec les hommes dont on voit très bien les plis des pantalons devant, qui sont assez récents. Et ça, c'est le tableau que vous attendiez tous, puisqu'il était sur l'affiche, et il est assez extraordinaire. D'abord, les deux gars assis, avec les deux femmes debout, c'était pas par impolitesse, parce que les femmes voulaient se montrer au complet. Elles sont en tenue de voyage ou de promenade, si vous voulez, et les chapeaux dans les années 1909, 10, 11 atteignent le maximum de largeur. Ça devient très très embêtant pour aller au théâtre. Parce que les femmes gardent leur chapeau au théâtre et les hommes se plaignent énormément. C'est aussi assez compliqué par rapport au vent. Donc, il faut imaginer qu'il y a des épingles à chapeau qui mesuraient jusqu'à 30 cm pour tenir ces chapeaux. Mais les États-Unis ont toujours la capacité de réglementer puisqu'ils vont faire une loi qui interdit aux épingles à chapeau de dépasser le 9 pouces. Donc, on est passé de 12 à 9 pouces, mais il n'y avait pas de règle pour la largeur du chapeau. Et imaginez qu'à l'église, les femmes devaient porter leur chapeau. Et comme ça devait être intéressant, tous ces chapeaux devant... voilà. Et les chapeaux, j'ai dit extrême largeur, mais ce qu'on voit, ce qui permet de dater plutôt 11-12 plutôt que 10, c'est que les chapeaux commencent un peu à s'effouérer de chaque côté. Et les plumes aussi. Vous avez vu la plume qui pendouille ici ? Ah ben, elle est très bien nommée une pleureuse. Donc les chapeaux sont plus chagrinés à cette époque-là et portent toutes sortes de noms à la mousquetaire, etc. On copie beaucoup aussi le XVIIIe siècle. Tandis que ça, le chapeau de la dame d'à côté est une mode qu'on trouve un peu plus bizarre et ça s'appelle peach basket en anglais, donc panier de pêche. Nous, moi, j'appellerais ça panier de crabe, ça irait tout aussi bien. C'est la saison. Vous avez remarqué le petit sac, le petit réticule, elle le montre pour qu'on voit que c'était bien. Et bon, tout à l'heure, nous avons vu le studio, mais ici, nous sommes en plein air. Alors ça, c'est beaucoup plus rare comme photo, surtout beaucoup de monde comme ça. Et ce sont des sportifs, sportifs du dimanche, évidemment, mais vous avez remarqué les raquettes, il y a même une batte. Et tout ça avec des chapeaux et pas des petits. Et vous avez le côté ondulant, crêpe plate, vous avez tous les modèles. Il y a vraiment pour tout le monde, et mais les hommes aussi, avec des hombours, des panamas, des casquettes pour les plus jeunes. Et tous, imaginez faire du tennis affublé comme ça. Bon, donc l'épingle à chapeau était vraiment obligatoire. Donc une très intéressante photo et une autre aussi prise au parc des Rapides à la Chine. Nous connaissons juste le nom de la jeune fille et je suis sûre que sa mère n'était pas au courant. Elle se trouve avec trois gars au bord de l'eau et elle sourit, elle aime ça en plus. Donc très rare des photos d'extérieur. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'elle est vraiment datée 1911 à l'arrière. Et les hommes, on commence à pouvoir sourire sur les photos. Ils sont quand même toujours en complet veston avec leur canotier, même s'ils font pas de canot. C'est vraiment le chapeau de l'été. Voici la version plage, un peu tout petit peu plus tôt, mais on voit qu'on ne craint pas les grands vents. Et que dans le sable, eh ben, on continue à s'habiller avec robe longue, robe blanche, et elle a l'air très heureuse de tout ça. Alors, il y a d'autres versions pour la plage. Massicotte qui nous fait un petit dessin ici, qui nous montre une espèce de costume de bain, avec évidemment bas noir. Ça, c'était les images porno de l'époque, hein, on faisait ce qu'on pouvait. Mais une photo un peu plus tardive qui nous montre ce même genre de costume de bain qui devait tout s'aplatir et s'alourdir une fois qu'on sortait de l'eau. Et non, c'est pas un turban de femme de ménage, c'était pour relever ses cheveux. C'était tout à fait typique de cette époque-là. Nous verrons l'évolution du costume de bain tout à l'heure. Mais en général, au bord de l'eau, c'est la mode d'aller... au bord du fleuve, ici les régates, par Mabel May. Donc vous avez des femmes, des enfants, je pense qu'il y a un homme quelque part. 1913-1914, les chapeaux deviennent un peu moins larges, heureusement. On a l'impression que les robes sont plus confortables, elles sont un petit peu plus vaporeuses. Et en réalité, en dessous, le corset est toujours aussi contraignant. Et donc le confort, on n'est pas rendu là. Une jeune femme qui aurait très bien pu aller dans le tableau que nous avons vu tout à l'heure, 1914. D'ailleurs, elle a des fines rayures marinières, ce serait très bien. Elle est très élégante, elle vient de Montréal et elle porte la version évidemment plus ajustée qu'on a commencé à voir, plus nécessairement le col montant, donc on commence à voir un petit peu plus du cou des femmes. Alors, ce qui est intéressant, je vous montre une gravure de Suzor Côté. Attendez, voilà ici. 1916, qui nous présente la Canadienne française, comme on nous l'a toujours décrit, et comme ça, et swing la baquette dans le fond de la caisse à bois, c'est ça. En réalité, voilà comment la Canadienne française s'habillait en général. Et nous avons des preuves, pas seulement par cette photo, mais par de nombreuses photos, des photos prises à la campagne, dans les fermes. Les femmes n'étaient pas habillées comme Maria Chapdelaine, désolée. Et d'où l'intérêt aussi de faire des recherches. Donc on ne portait pas nécessairement des bottes de sauvage, etc. Le châle n'était pas toujours croisé devant. Les vieilles personnes, les personnes plus âgées pouvaient, ça s'est vu, s'habiller de cette façon. Mais en général, si on n'avait pas toujours les moyens de s'habiller d'une façon aussi élégante, on avait quand même les moyens d'imiter la coiffure. Ne pas l'oublier. 1919, magnifique tableau de John Lyman, Corinne. Alors tout d'un coup, on a l'impression d'être dans une sorte de modernité et la date nous étonne avec ce petit chapeau très masculin, son petit côté très frondeur. Mais ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que la lutte des femmes, ça ne fait que commencer. Hein? Mais c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Elle porte un tailleur. N'oublions pas que nous sommes après la Première Guerre mondiale. Vous avez compris que j'ai dû aller quand même un peu vite. Mais pendant la Première Guerre mondiale, les femmes ont profité de l'absence des hommes et pour aller travailler. Et que quand les hommes sont revenus, ils ont dit « Eh ben non, nous, on a montré qu'on peut en faire autant que vous. » Et puis maintenant, on a un peu notre mot à dire. Et d'ailleurs, pour travailler, on se coupe les cheveux, etc. On porte des vêtements un petit peu plus sensés. On se débarrasse du corset, etc. C'est un peu tout ça que Corinne essaie de nous dire à travers ce tableau, avec une certaine fierté. Et nous avons une publicité de la compagnie Paquet de Québec, à droite, qui nous montre là une jeune fille qui n'a pas l'air d'être dans une usine, très bien habillée, beau chapeau de 1920, avec étole de fourrure et manchons. Et je vous ai trouvé un pendant en photo avec le gros manchon et l'étole de fourrure. Mais je voulais juste profiter de cette petite publicité pour rappeler qu'avec la naissance des grands magasins, la publicité, ce qu'on appelle la réclame à l'époque, commence à fleurir. Et les gens du marketing, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque, apprennent très très vite. Et dans une publicité, je crois que c'était Le Tendre, ils écrivaient « Nous invitons fortement le beau sexe à venir voir ». Si ce n'est pas pour acheter, au moins par curiosité. Alors au fond, ces publicitaires avaient très bien compris que la curiosité des femmes allait faire le désespoir des maris, mais le bonheur des commerçants. Alors je trouve ça incroyable, cette publicité qui essaye d'aguicher les femmes par la curiosité. Très joli tableau qui nous représente la fameuse terrasse du Frein à Québec en 1920. Alors là, on voit que la silhouette a changé. La silhouette est devenue allongée, on voit les chevilles. La taille est encore à sa place. On parle toujours des années 20 avec la taille basse, mais en 1920, la taille est encore à sa place, mais elle s'apprête à baisser. Et on voit toutes sortes de chapeaux, des capelines, des chapeaux un peu plus cloches. On voit aussi des tailleurs pour les femmes. Donc c'est vraiment un très très beau tableau qui nous donne une bonne idée de la date de 1920. Pour le soir aussi, la mode s'est simplifiée. Les robes ne tiennent que sur l'épaule. Elles s'enfilent par la tête, se posent sur les épaules. Et on est à la grande époque de la danse. Donc il faut des robes faciles pour pouvoir danser. Et la zone érotique ou érogène de l'époque, vous l'avez compris dans le tableau, c'est le dos. Donc les dos sont beaucoup plus décolletés que les devants. Et dans ce très beau tableau et cette belle pose, avec, vous avez remarqué peut-être, les jambes croisées. On devine les jambes croisées, la pose genre femme fatale. C'est sûr que sa mère n'est pas d'accord. C'est sûr que c'est considéré encore comme vulgaire, mais ça commence à cette époque-là à être un peu plus accepté. Vous avez remarqué la coupe de cheveux. Et l'utilisation aussi du jaune brillant, du clinquant, typique des années 20. On considérait que le jaune, ça allait bien avec la lumière électrique. Donc on était moderne à l'époque. Ah, l'extraordinaire tableau d'Adrien Hébert, c'est un très grand tableau qu'il faut aller voir à Québec juste pour ce tableau-là, qui représente la rue Saint-Denis avec, vous avez reconnu, l'UQAM, le clocher Saint-Jacques. Donc, l'UQAM aujourd'hui. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'en 1927, autant les hommes que les femmes sont habillés à la fine pointe de 1927. Même la longueur du manteau de la femme en rouge nous indique que nous ne sommes pas en 25, mais déjà en 27. Donc, c'est l'époque où vous avez compris, les jupes, pour la première fois, se sont raccourcies. En 24-25, elles atteignent juste en dessous du genou, donc ça ne s'est jamais vu dans l'histoire de la mode féminine. C'est aussi l'époque qu'on appelle la garçonne, d'où le côté très simplifié de la mode, où les femmes ne veulent plus de poitrine, elles veulent plus de derrière, elles veulent être libres, elles veulent pouvoir danser. Et c'est ce qu'on voit, c'est vraiment un tableau de la modernité urbaine. Mais cette mode sera suivie partout, ça je peux vous l'assurer. Donc c'est la mode aussi art déco, c'est la mode des années folles, j'essaye de tout décliner, mais on le reconnaît très bien. Et les hommes, à partir de maintenant, portent le complet veston dans la rue. Et pour le prouver, très beau portrait de mariage de Lionel et Flore Tétrault de Québec. Donc, regardez la façon élégante dont il porte son petit melon. Et il se marie en complet veston. Il a le pantalon qui nous semble trop court, mais en fait, c'est la mode. On appelle ça un pantalon en longueur feu de plancher. C'est-à-dire c'est authentique. En cas de feu, le pantalon est sauf. C'est juste la mode. Et la femme à côté, tellement, tellement mignonne, avec évidemment son magnifique chapeau cloche en paille picot, avec sa robe courte, mais on peut déplacer à la fin des années 20, parce qu'elle commence à avoir différentes formes, des godets, donc elle commence à fluctuer. Et elle porte aussi des bijoux, les perles de l'époque, une petite étole et des gants. Elle porte les chaussures à brides, qu'on appelle des salomés, qui sont idéales pour danser le charleston et le foxtrot dès que la nuit sera consommée. Oui. Non, pas du tout, c'est vrai. Disons que la mode, c'est pas vrai. La mode est française pour les femmes, elle est parisienne même, mais elle est distribuée d'une façon très rapide et universelle en Occident, absolument partout. Donc il n'y a pas de différence de niveau de la robe ou de la jupe entre l'Europe et l'Amérique. À peu près 3 semaines après la sortie d'un catalogue européen, tout le Québec est au courant. Ça, c'est très très important. C'est plus pour les enfants et pour les hommes. Effectivement, des fois, j'ai pas le temps, excusez-moi, de tout le temps préciser. Ça, c'est un très beau un tableau d'Adrien Hébert, la rue Sainte-Catherine, pour vous rappeler que les grands magasins, l'essor des grands magasins, sont tellement importants pour la révolution industrielle et pour la mode et pour l'industrie canadienne-française. Ces magasins se trouvent sur la rue Sainte-Catherine. Vous avez Archambault, qui ne se trouve pas dans le tableau tout à fait au même endroit qu'aujourd'hui, mais on voit très bien la façon dont les gens sont habillés. On pourrait quasiment dater le tableau avec la coupe, les chapeaux, les manteaux, etc. Et Adrien Hébert a peint comme ça des dizaines de tableaux de rue qui sont tous plus merveilleux les uns que les autres. Donc, rappelez l'importance des grands magasins et aussi des catalogues. J'essaie de voir, il faut que j'avance. Un catalogue Dupuis Frères. Dupuis Frères est installé sur la rue Sainte-Catherine depuis 1882, quelque chose comme ça, mais possède aussi des comptoirs postaux et des catalogues. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est parce qu'on parle tout le temps des villes, on vous parle de la mode, mais c'est très important de comprendre que cette mode se rendait dans les coins quasiment les plus reculés de la campagne et que c'était grâce aux catalogues. Eaton a commencé ses premiers catalogues vers 1884, je pense bien, mais les distribuait en anglais au Québec. Il faudra attendre 1927, la date du tableau de Hébert, pour que Eaton s'installe à Montréal, sur la rue Sainte-Catherine, et daigne traduire son catalogue en français. Mais là, il sera distribué partout aussi. Donc les catalogues Dupuis, les catalogues Eaton, même c'est intéressant de savoir les surnoms qu'on donnait à ces catalogues. On les appelait la Bible du fermier, Donc, ça veut dire que ça arrivait à la campagne, ou le grand livre, ou encore mieux, le livre des désirs. Ça, c'était pour les femmes. Bon. Donc, ça rejoignait tout le monde. Et les gens qui n'avaient pas les moyens de recevoir le catalogue par la poste, vous inquiétez pas, il était distribué dans les villages, d'une maison à l'autre. Ces catalogues étaient distribués. Et quand il était passé date, ben, les enfants pouvaient découper, etc. C'est comme ça qu'ils apprenaient à lire. Et souvent en anglais, évidemment, puisque les catalogues étaient souvent en anglais. Mais donc, Dupuis Frères, c'est vraiment un magasin important, mais on peut parler aussi de Simons. À Québec, la compagnie Paquette, etc., ont tous des comptoirs postaux et des catalogues qui vont distribuer, ce qui permet d'avoir très très peu de laps de temps entre la mode qui est faite à Paris, distribuée à New York, à Toronto et à Montréal. Montréal est une ville de mode, et ensuite dans le reste de la province. Très beau tableau pour rappeler l'importance et la nouveauté de la maille, donc du tricot. Alors, c'est un autoportrait de Lilias Torrance Newton, et là on sent la modernité, on sent quasiment les années 30, même si on est en 29, et la simplicité aussi, c'est le confort qui arrive avec le tricot. Et évidemment, c'est une grande dame de la couture, Chanel, qui va mettre le tricot à la mode. Même le petit garçon a droit à son tricot rayé. Imaginez les enfants pour la première fois dans des vêtements confortables. Ça faisait longtemps qu'ils attendaient, je vous assure. Alors ici, évidemment, c'est une première communion, donc le pauvre petit garçon n'est pas si confortable que ça. Mais il a espoir que ça s'en vienne. Alors, une très belle photo colorisée d'un couple, et j'aime beaucoup le coup de vent qui remonte la cravate du monsieur, le côté très décontracté, assez typique, et le sourire, et remarquez le prénom Lumina. Juste pour rappeler que les robes du soir, même si elles semblent ressembler à celles des années 20 que nous avons vues tout à l'heure, sont beaucoup plus raffinées, mieux coupées qu'auparavant, même si ça ne paraît pas, ça ressemble. Les coiffures assez typiques des années 30, et un très grand peintre quand même, Ozias Leduc, qui a pris la peine de faire des portraits. Remarquez les chaussures dorées aussi. Jean-Paul Lemieux, qu'on imagine toujours avec des paysages de neige et qui a quand même fait des magnifiques dessins de mode, robes du soir avec des décolletés, des couleurs extraordinaires. Les maillots de bain. Alors, vous avez les maillots de bain du Canadian Pacific, donc quand même relativement moderne, mais vous avez, attention, le maillot de bain de la LCF, Ligue catholique féminine. Là, on ne plaisante pas, hein, c'est-à-dire celui qui est permis par le clergé, avec la jupette. Il ne faut quand même pas trop montrer, hein, il ne faut pas exagérer. Alors, il y a le ski, donc tous ces sports, aller à la plage, faire du ski, tout ça, c'est nouveau. Château Frontenac, allez-y, on y fait du ski. Alors, vous avez Germaine Charette, qui évidemment, la silhouette ne ressemble pas tout à fait à la madame du Château Frontenac, mais c'est normal. Mais c'est normal, nous aussi nous ne ressemblons pas à ces planches à repasser que nous voyons dans les magazines. Mais je trouve qu'elle a bien de l'allure quand même et bien du courage avec ses skis, ses pantalons norvégiens. Imaginez porter des pantalons déjà à cette époque-là, son petit béret très masculin, très mignon. Extraordinaire tableau de Pélan, jeune fille aux anémones qui porte un tricot. Et je voulais utiliser ce tableau juste pour rappeler l'arrivée de la couleur et les imprimés. Très, très important dans les années 30. Et ça vient aussi de toutes ces expositions. Van Gogh, Lautrec, Vlaminck, les fauves. Donc la couleur devient importante et ça se reflète dans la mode et dans les imprimés. Ici, c'est son châle qui est imprimé, mais les imprimés vont devenir vraiment très importants à cette époque-là. Alors ici, nous avons vraiment une photo de campagne, on ne peut pas en douter avec toute la boue qu'il y a par terre, et toute une série de femmes qui portent des robes imprimées et la coiffure tout à fait à la mode, tout à fait bien pensée, bien coupée, même si on a l'impression que la photo est quand même un peu improvisée. Et les hommes, attention, ils ont laissé parfois tomber la veste, mais ils ont laissé tomber le veston, mais jamais le gilet. Okay. Un homme serait tout nu en chemise. C'est vraiment très important et on le voit très bien sur la photo. Alors, lui, je l'appelle notre Xavier Dolan des années 30. D'accord, il ressemble quand même beaucoup à Xavier Dolan. Alors, un peintre, Jean Dallaire, qu'on n'imagine pas en train de faire ce portrait. Alors ça, c'est un jeune à la mode qui boude. C'est normal à cet âge-là. Faut pas s'en inquiéter. Et qui est le dandy, un peu frondeur, un peu à l'américaine. Et la mode devient un petit peu américaine pour les hommes. C'est-à-dire, au lieu de porter une chemise claire avec un veston foncé, et avec beaucoup d'audace, il porte une chemise bleu vif, une cravate beurre frais et le veston magnifique blanc ou très très pâle, avec vous avez remarqué, les très très grands revers sur les côtés, donc qui donnent des épaules assez larges. Donc il y a un petit côté film de gangster, mais c'est l'image du cinéma hollywoodien, c'est l'image masculine qu'on veut donner à cette époque. Je dois avancer, vous m'excuserez, juste pour dire que même si on tombe la veste, on garde le gilet. Alors très élégant, magnifique chapeau, et il s'agit d'un chômeur syndicaliste, quand même drôlement bien habillé. Un tableau naïf, un autoportrait de Simone Marie Bouchard. Regardez, on a beau être à la campagne, on a beau être une peintre de style naïf, on est quand même à la dernière mode. C'est pour ça que je l'ai mis en regard avec le catalogue Dupuis. Elle a quasiment les mêmes couleurs. Le petit sac blanc, les petits gants blancs. Il manque juste les petits rubans roses. Au musée, j'ai demandé si je pouvais rajouter un petit ruban rose. Ils m'ont dit non. Mais je trouve qu'ils ont eu tort. Mais voilà. Et vous remarquerez, derrière, on voit la campagne, la barrière, la verdure, etc. Donc on s'adresse bien à des gens de la campagne. Voilà Germaine, nous la retrouvons l'été, en 1938-1940. Vous voyez que même à 2 ans d'intervalle, la mode change, même la longueur de sa robe a changé. Et encore une fois, elle n'a peut-être pas le physique, mais elle a tout le reste. Elle a le sac, les gants, les chaussures, l'étole, le chapeau, tout a été bien pensé et visiblement, Germaine habite à la campagne. Donc c'est vraiment assez intéressant à ce niveau-là. Un mariage, là nous avançons dans les années 40, avec un catalogue de 45 qui nous montre exactement le même genre de robe qu'on peut voir ici dans ce mariage de Lucien Audet. J'imagine que c'est lui et que ça devrait être sa femme. On voit évidemment les épaules assez typiques de cette époque-là. On voit les coiffures à la Fontange. Rien de plus facile que d'imiter une coiffure qui est dans un catalogue. On n'a peut-être pas toujours la robe dernier cri, mais c'est sûr que c'est facile à imiter. On voit bien même les longueurs sont respectées. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Alors, nous achevons Coinpile et Sainte-Catherine, juste pour dire un mot sur les vitrines. Les vitrines des grands magasins sont très importantes et c'est une invention relativement récente. C'est Morgan qui a fait la première vitrine en 1871 ou 72. Et ça provoquait un choc, les gens ne comprenaient pas. Et pourquoi ils mettent de la marchandise dans des vitres ? Et pour nous, ça nous semble tellement évident. Et donc, Hébert a été très fasciné par ces vitrines, par la modernité. Et c'est un tableau de 48 que je mets en regard avec notre dernière image, un mariage à Québec, alors d'Aline Plante et Adrien Goyette. Et nous retrouvons une dernière fois Germaine, notre tante Germaine. Notre tante Germaine avec sa petite fille. Et je vous ferai remarquer, la mariée, c'est pas très intéressant, mais regardez comment les gens sont habillés, en particulier les chapeaux. Regardez la variété des chapeaux. Toutes les femmes sont extrêmement bien chapeautées. Et une femme se devait d'avoir un chapeau au moins rafraîchi au moins 3 ou 4 fois par année pour chaque occasion. Évidemment, pour un mariage, on s'arrangeait pour avoir, sinon un chapeau neuf, au moins avoir rafraîchi son chapeau. Alors, je vous remercie de votre patience. Je vais prendre vos questions. Mais pour les gens qui voudraient avoir un peu plus de détails, parce que, je l'avoue, nous avons été un peu vite. Il y a un catalogue qui est sorti et que j'ai coécrit avec Esther Trépanier. Je me suis occupée de la partie mode. Donc, toutes les images que vous avez vues se retrouvent, y compris plusieurs photos dans ce catalogue. Et donc, sur mode et apparence, dans l'art québécois, il se retrouve un petit peu partout. Et je suis prête à prendre quelques questions si on nous donne la permission. Je sais qu'ils l'ont au Musée des Beaux-Arts, ici, donc à Montréal, et je l'ai vu à la coop de l'UQAM, forcément. Mode et apparence, oui, dans l'art québécois. C'est des éditions, les publications du Québec, c'est pas compliqué. Il est assez bien illustré. J'ai l'impression de vendre mon catalogue, mais il est bien fait. Il y a beaucoup de photos, tous les tableaux sont là, les dessins. Il y a des dessins, c'est absolument fabuleux. Et je rappellerai que beaucoup des tableaux que vous avez vus sont dans les caves des musées, ne sont pas exposés parce que ils sont pas les tableaux typiques. C'est pas un Lemieux typique, c'est pas des Dallaire typiques, etc. Donc c'est intéressant de pouvoir aller voir ce genre d'exposition. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui. 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 Voilà. Alors, le canotier, en fait, c'est un chapeau d'été. On ne le portera pas en hiver. Mais effectivement, il y a quelque chose de très cyclique dans les chapeaux. Ils deviennent, vous vous souvenez, la forme pot de fleurs. Et puis là, quand on ne peut pas aller plus haut, eh bien là, on va dans la largeur. Et puis après, quand on réussit à stabiliser, à améliorer aussi tout le travail du chapeau, on réussit à le faire de plus en plus léger. Pour qu'un chapeau puisse être supportable par rapport aux migraines, par exemple, il faut avoir des matériaux les plus légers possibles. Donc c'est toute une science, le travail de la modiste. Effectivement, on a dû passer un peu rapidement, mais c'est cyclique. On peut souvent dater un tableau grâce au chapeau. Et si une femme ne pouvait pas changer sa jupe, elle allait changer son chapeau. Elle peut facilement le mettre elle-même à la dernière mode. D'ailleurs, dans les catalogues, c'est intéressant, ils vendent aussi des bases de chapeaux. Donc, genre, faites votre chapeau vous-même avec les restants que vous avez trouvés dans les coffres de votre grand-mère. Donc, les femmes habiles savaient faire leur chapeau. Et c'était vraiment un signe de convenance que de porter un chapeau. Une femme sans chapeau, on disait qu'elle était en cheveux. Donc, moi, je suis en cheveux. Et c'était impensable. Ou elle était une prostituée, ou elle était folle. C'est vraiment important, ne pas oublier ça, jusqu'en 1945 au moins. Oui. Oui. Ah ouais. Oui, mais vous pouvez aller sur... excusez-moi, mon courrier l'UQAM, c'est toujours le nom de famille .borboin.veronique@ucam.ca. Tous les noms de profs, c'est pareil, donc vous pouvez me rejoindre très facilement. Et si vous voulez, je vous donne une carte. Tout à fait. Comme vous voyez, j'en fais bon usage, bonne utilisation. Oui, oui, tout à fait, merci beaucoup. Alors, je pense que nous avons dépassé de largement notre temps. Vous avez été très patient. Vous comprenez que pour voir toute cette époque, on n'avait pas trop le choix. Alors, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.